Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui, à La Haut sur la colline, le conservateur Alain Reyes trouve que sa vis-à-vis, Mélanie Joly, se réveille bien tard. À la presse ce matin, elle soutenait que le français est en recul à Montréal et le fédéral doit faire quelque chose pour l'aider, croit-elle. Reyes estime que les bobines doivent suivre les babines rapidement et le gouvernement Trudeau doit accepter notamment de soumettre les organismes et entreprises à charte fédérale à la loi 101. Mais d'abord, parle-t-on trop de la crise d'octobre de 1970?
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
À chaque 10 ans depuis 1970, on commémore toujours de façon très intense la crise d'octobre. Et évidemment, le 50e est peut-être l'exemple parfait. C'est après tout un anniversaire jubilaire. Et je lisais l'autre jour mon ami Joseph-Yvon Thériault, qui est sociologue à l'UQAM, qui disait qu'il cherchait à comprendre la fascination des Québécois pour la crise d'octobre. Bonjour Joseph-Yvon Thériault.
Bonjour.
Alors, pourquoi on est fasciné par la crise d'octobre et pourquoi à chaque 10 ans?
Au départ, oui, mon interrogation, je comprends bien que c'est un événement important, historique, etc., et qu'on s'y intéresse, mais je trouvais qu'il y avait une sorte de fascination et j'avais une première interrogation qui était celle de la sympathie qu'on avait pour la crise d'octobre, pour le FLQ, hein, le film actuellement sur les roses le démontre, hein, tout le monde semble emballé par le film, etc. Et je me disais, c'est assez surprenant, ça couvre une vaste gamme de la vie politique, hein, je veux dire, des politiciens comme le chef du Bloc québécois, par exemple, qui par ailleurs défend une position très modérée en politique, très institutionnalisée, ému devant le film des roses, etc. Hein, ça va à Catherine Dorion qui lève le poing.
Oui.
Et donc, il y a presque pas de, commentaires critiques face à ça. Et je me disais, pourquoi on a cette grande empathie pour un événement qui, somme toute, est un événement un peu triste de notre histoire, un événement que tout le monde rejette d'une certaine façon.
Mais le film est particulier. Les gens sont émus parce que c'est la quête, justement, de Félix Rose qui cherche à comprendre les comportements de son père.
C'est du romantisme, mais c'est le récit de sa famille, quand
ouais.
même. Et c'est-à-dire que la thèse selon laquelle la pauvreté conduit au terrorisme est une thèse qui ne tient pas la route habituellement, hein, parce que les violences politiques, les révolutions sont plus des classes montantes que des classes pauvres dans l'histoire du monde.
On se souvient que ce débat-là a eu cours au 11 septembre, on disait c'est la pauvreté, mais non, c'était des Saoudiens très riches qui sont fait sauter.
Je me dis... Bon, je trouve que on peut parler du film, le film comme parcours personnel, c'est intéressant, mais quand on est extérieur à ça, je me disais, mais il me semble qu'il n'y a pas de nuance.
Mm-hmm.
Et aussi, il y avait un éclat assez grand, mais pas uniquement au film, là. Le Devoir, samedi, faisait un grand cahier sur la crise d'octobre.
Oui.
C'est bien fait, d'ailleurs. Ouais, les autres journaux l'ont fait. Il n'y a pas un chroniqueur qui n'en parle pas. Et je me disais, donc, il y a vraiment une emphase importante. Je ne suis pas sûr qu'en Italie, on parle des Brigades Rouges de la même manière.
Mm-hmm.
Avec autant d'emphase.
Est-ce que ce n'est pas parce que c'est une des seules fois où des Québécois ont considéré que la violence pouvait être une réponse à leur statut politique qui pose problème.
Oui, mais en même temps, on ne discute pas beaucoup de ce cheminement-là. On ne discute pas de la fausse route, d'une certaine façon.
De l'impasse?
On insiste beaucoup, je pense, moi, qu'on insiste plus sur la réponse, avec raison d'ailleurs, la réponse du gouvernement fédéral qui a été d'une violence politique exagérée par rapport à l'événement comme tel. Hein, mais ouais. C'est vrai que... Mais je dirais même, en relation avec l'histoire du Québec, le refus de la violence politique a été une constante. Et c'est vrai que la crise d'octobre a été la seule fois, mais pourquoi on en fait...
Il y a les rébellions, d'ailleurs, les féliquistes s'en réclament. J'ajouterais qu'il y a un troisième dont on ne parle pas souvent, c'est les Zouaves. Les Zouaves qui sont allés combattre auprès des troupes papales.
Oui, parce qu'habituellement, on refusait même la guerre, on a refusé la guerre des Boers.
C'est
ça. Mais avec les Zouaves pontifiques, on y est allé. Mais c'est pour ça que j'ai dit, mais peut-être que c'est au fait, et c'est lié par exemple à la défaite de 37-38, à la défaite des Prennes-la-Brame, et en disant au Québec, comme dans toutes les petites nations, hein, c'est-à-dire les nations qui sont fragiles, etc., il y a un pathos qu'on aime entretenir.
Oui.
Parce que ça fait partie de notre identité. L'identité d'être une société qui ne s'est pas réalisée pleinement par rapport à sa volonté ou par rapport à ses exigences. Et donc, on fonde notre imaginaire politique sur des défaites. La défaite des Plaines d'Abraham, la défaite 37-38, l'union qui a été forcée, une confédération qu'on n'a pas voulu, et maintenant une crise d'octobre qui a amené une tentative d'anéantir le mouvement souverainiste, etc. Donc c'est un peu ça, c'est ce que j'appelle le pathos de la petite nation. Certains disent mais c'est péjoratif par rapport au Québec. Je ne crois pas. Je pense que ça fait partie d'une identité de petite culture, de petite nation. Hein. Je rappelle souvent
on aime gratter nos bobos ou plus élégamment oui, on aime rappeler nos griefs.
On aime, il y en a plus, puis c'est fait. Milan Kundera rappelait que la devise, l'hymne national polonais commençait par ses vers.
Elle n'a pas encore péri.
N'est pas encore péri, oui. Et donc, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est à la fois intéressant, qui est à la fois simplement un constat d'un signe de comment on construit son identité dans une petite société qui n'est pas advenue politiquement à l'autonomie, mais il y a aussi quelque chose de l'ordre parfois d'un petit peu fatigant à gratter son bobo.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle qu'on peut faire avec les commémorations à chaque 10 ans, et là, dans les années en 8, avec en France pour ce qui est des révoltes de mai 68, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle? Parce que là aussi, c'est une espèce d'avorton de révolution, beaucoup de romantisme, des actes assez violents, mais on est dans une grande nation. Est-ce qu'il n'y a pas un pathos là aussi?
Mais ça, il y a quelque chose, ce que je disais, que c'était de l'ordre de deux choses. Il y a une réflexion, ma réflexion, elle portait sur la démocratie et l'étrange fascination que les démocraties ont pour des actes de violence ou encore pour la rue, simplement. Mm-hmm. C'est des gens qui sont dans les institutions exaltent de manière romantique, mais par contre, eux-mêmes ne le feraient pas aujourd'hui, ou si on en discute avec eux, ils seraient opposés à cette manière de voir le politique. Mm-hmm. Donc, je pense que les intellectuels occidentaux, les journalistes, etc., sont un peu des romantiques et ne prennent pas vraiment conscience toujours de la part de l'institution démocratique et c'est plus spectaculaire. Mais mai 68 n'est quand même pas une défaite. Mai 68 est quand même un mouvement social qui a eu des effets. Et on pourrait imaginer que la crise d'octobre, ce avec quoi je m'obstinais un peu, c'est de dire, on est en train de nous dire qu'on a été sensibilisé à la question nationale, qu'on a été sensibilisé à la question sociale par la crise d'octobre. Je dis, mais c'est beaucoup plus large que ça, un mouvement social. Mm-hmm. On a été sensibilisés par des poètes, on a été sensibilisés par de la littérature, on a été sensibilisés. En 1970, la jeunesse du Québec était sensibilisée. C'est pas le kidnapping de Pierre Laporte.
Ben, il y avait 7 ans de bombes. Ça faisait 7 ans que le FLQ posait des bombes.
Mais je veux dire, c'est un peu.
Je dis pas ça pour dire que c'est une bonne chose ou que c'est.
Non, c'est un peu une cerise sur le gâteau. Je veux dire, oui, il y a eu. Les années 60, d'ailleurs, ont été des années assez violentes aux États-Unis, en Irlande. Ce sont des années qui... je ne pense pas qu'on peut dire que les progrès sociaux ont été liés essentiellement ou majoritairement à ces événements violents. Hein. Je pense qu'il y a eu toute une émancipation politique qui s'est réalisée dans d'autres sphères. L'accent sur la valorisation d'un romantisme politique terroriste ou de violence, etc., m'apparaît une diminution de la part de la démocratie, une dévalorisation du mouvement social dans son ensemble.
Oui, oui. On a évité l'irlandisation de nos luttes, écrivez-vous sur Facebook. J'ai trouvé la phrase intéressante. Est-ce que, justement, cet évitement-là n'est pas un succès? C'est une réussite?
Oui, mais c'est ça.
C'est peut-être ça aussi qu'on célèbre ou qu'on commémore à travers la commémoration d'octobre.
Oui, mais c'est pas ça qu'on commémore, pas qu'on l'a évité. On commémore comme quoi que. Je pense qu'on voyait. Ben, on voit dans la crise d'octobre une espèce d'échec, hein, une échec encore d'une émancipation politique, une échec parce que ça a permis au gouvernement fédéral d'imposer la loi des mesures de guerre, etc. Et je serais d'accord pour dire que si on le mettait dans un contexte plus large, on disait, mais écoutez, finalement, nos institutions politiques ont résisté, nos leaders politiques ont dit non, on fait pas ça, c'est pas comme ça. Et ça conduit effectivement à la victoire du Parti québécois, à la possibilité de faire des référendums, etc. Je me dis, la question de l'irlandisation de la possibilité d'une irlandisation, d'une nord-irlandisation, dans cette, en disant, écoutez, l'Irlande du Nord a essayé une voie encore plus brutale, ça n'a pas fonctionné non plus.
Non, c'est vrai. En terminant, si je vous posais la question, bêtement, est-ce qu'on en parle trop de la crise d'octobre? Qu'est-ce que vous répondez?
Moi, je pense qu'on en parle un peu trop et qu'on en parle mal. Je veux dire, je ne mettrais pas tout le monde dans ce même panier-là. J'écoutais l'autre jour à la radio un débat où Éric Bédard était là et je trouvais qu'il avait une position de dire ben, il faut raconter ces faits-là, puis il faut voir un peu avec ces faits-là d'un côté négatif comme positif, mais il faut les raconter. Ça fait partie de notre histoire, je suis d'accord. Mais je percevais qu'actuellement, face à un moment où le nationalisme est très faible, à un moment où la revendication nationale est faible, qu'on exalte la crise d'octobre comme un moment, presque un moment glorieux de notre histoire. Et je disais, oui, ça, non. De cette manière-là, on en parle trop.
Très bien. Merci beaucoup, Joseph-Yvon Thériault, professeur de sociologie à l'UQAM et auteur de, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, Faire société, société civile et espace francophone. À bientôt.
À bientôt, merci. Au revoir.
Au revoir.
Antoine Robitaille.
Le philosophe de la politique. La joute politique.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Tic ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
On apprenait dans la presse que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau et par la voix de Mélanie Joly, sa ministre, que le gouvernement veut protéger le français au Québec. Je me demandais comment réagissait le Parti conservateur à cette annonce-là. Bonjour, Alain Reyes.
Bonjour.
Qui est député de Richmond-Arthabasca. Donc, comment vous réagissez à cette information-là, qui est nouvelle, il me semble?
Sincèrement, je prends ça avec un grain de sel d'entendre Mélanie Joly nous faire savoir que le français est important pour le Parti libéral, pour Justin Trudeau et pour elle-même, quand, lorsqu'on regarde concrètement ce qui se passe sur le terrain depuis 5 ans, depuis qu'ils sont au pouvoir. Il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour améliorer le français au Québec, mais aussi un peu partout au pays. Et à part se faire dire qu'ils essayent de réparer la situation avec les conservateurs de Stephen Harper d'il y a 5 ans, c'est assez spécial. On a vu ce qui s'est passé avec We Charity, où la ministre Joly a accepté que le contrat soit donné à cette organisation-là qui était unilingue anglophone. Donc, si c'était si important pour eux, je pense qu'ils auraient posé des gestes concrets. Même chose dans le dossier de la modernisation des deux langues officielles, de la loi sur les langues officielles. Il n'y a rien qui a été fait encore aujourd'hui. Puis là, bon, on a le rapport qui est tombé ce matin du commissaire aux langues officielles qui jette un regard assez critique sur le travail que fait les libéraux.
Mais il y a tout un aveu dans l'entrevue qu'elle a accordée, là. C'est que Mélanie Joly accepte l'idée qu'il y a un recul du français au Québec. On n'entendait jamais le gouvernement Trudeau dire une telle chose.
Il était temps qu'elle commence à s'en rendre compte. Elle-même, ouais. Là, elle vit à Montréal. Elle est députée dans la région de Montréal. Et là, ben, je pense que c'est la révélation dans le texte de Joëlle-Denis Bellavance ce matin dans la presse. Et là, ben, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de changé. Elle nous fait encore des grandes phrases qui sont vides de sens et qui n'apporte rien pour améliorer la situation du français au Québec et ailleurs au Canada. Il y a un projet de modernisation de la loi sur les langues officielles. Toutes les consultations ont été faites partout au pays. C'est prêt. Puis on se fait dire que c'est à cause de la crise qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler. Ça fait 6 mois que les fonctionnaires sont chez eux. Ces députés sont là. Il n'y a rien qui l'empêchait d'avancer dans ce projet de loi. À la limite d'une déposer un échéancier en nous disant ça va être déposé à telle date. Le gouvernement du Québec a demandé qu'on leur applique la loi 101 dans les entreprises de juridiction fédérale. Le seul parti qui ne s'est pas commis par rapport à cette demande-là, c'est le Parti libéral du Canada. Donc, si c'est si important de protéger le français au Québec, mais pourquoi elle dit pas clairement que son gouvernement accepte d'aller travailler avec le gouvernement de François Legault pour faire en sorte que l'on respecte la loi 101 dans les entreprises de juridiction fédérale?
On dirait qu'ils préparent le terrain pour ça, par exemple, parce que c'est tout un virage pour eux qui ont toujours eu une vision assez symétrique des choses. Il fallait pas en donner plus aux Français, il fallait pas avoir l'air d'en donner plus aux Français, et il fallait traiter les minorités d'une façon strictement symétrique. Donc ça, c'est ça qu'il y a de nouveau, non?
Ben c'est nouveau, mais ça reste encore que des phrases creuses par le gouvernement libéral qui n'a jamais fait la démonstration de sa réelle compréhension du français, de son importance. Donc, à part de le dire, qu'est-ce qui a été fait par cette ministre en place? Et là, lorsqu'on regarde ce qui se passe, on regarde juste le rapport qui est tombé aujourd'hui aux langues officielles, qui a dit par rapport à la... aux recommandations qui étaient là dans l'ancien rapport, il y avait 18 recommandations qui étaient formulées. Le gouvernement qui était en place, c'est le gouvernement libéral de Justin Trudeau et de Mme Joly. Aucune des 18 recommandations du dernier rapport 2018-2019 n'ont été mises en application. Et là, il en rajoute 3 nouvelles sur le tas. Donc, on est rendu à 21 recommandations et il n'y a rien. Donc, même pas une seule des recommandations du commissaire aux langues officielles. Puis là, j'entends Mme Joly dire... C'est important pour nous, c'est important pour notre gouvernement. On reconnaît que le français est important. On reconnaît qu'il faut en faire plus. Oui, mais vous faites quoi? pour faire plus. Est-ce qu'il y a une action concrète que ce gouvernement libéral a mis en place? La réponse à cette question, elle est non. Le commissaire le confirme aujourd'hui dans son nouveau rapport qu'il dépose. Et dans ses trois nouvelles recommandations, ce qu'il dit justement, c'est la modernisation de la loi sur les deux langues officielles doit être mise en application. Donc, il me semble que le minimum, si elle était sérieuse, c'est de dire, voici, c'est important, voici l'échéancier que je vais déposer et j'y travaille ardemment. Et oui, je vais m'asseoir avec François Legault pour faire en sorte que la loi 101 soit respectée sur le territoire du Québec pour les entreprises de juridiction fédérale. Et je m'excuse de ne pas avoir levé la main pour faire en sorte que mon gouvernement, Justin Trudeau, n'accorde près d'un milliard à un organisme We Charity qui n'était capable de s'exprimer qu'en anglais.
Ah oui. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Hein? Oui.
Et le rapport, les documents le démontrent, le seul qui a levé la main, c'est le ministre Duclos. Et il a été député. Donc, ça sert à quoi d'avoir 6, 7, 8 ministres au Québec, 30 députés libéraux dans ce gouvernement-là, dont le premier ministre qui est un Québécois, s'ils ne font pas attention et minimalement lèvent la main et disent « ça marche pas, ça ne passe pas ». Si c'était si important, jamais qu'on aurait autorisé We Charity à gérer un programme d'un milliard quand ils sont même pas capables de le faire en français.
Comment on peut moderniser cette loi sur les langues officielles, selon vous, les priorités?
Ben, je pense qu'il faut donner plus de mordant, il faut donner plus de poids aux commissaires, il faut s'assurer que tous les ministères déposent un plan d'action pour améliorer la situation. On sait qu'on ne pourra pas tout faire du jour au lendemain, mais la crise qu'elle nous a montré, que c'est important que tous les Canadiens et les Québécois et les francophones hors Québec qui s'expriment en français parce que c'est leur droit de s'exprimer dans la langue de leur choix, puissent avoir accès à toute l'information pertinente. Donc, il faut qu'on s'assure que le message soit clair dans tous les ministères, fasse en sorte que tous les services soient offerts dans les deux langues officielles, que ce ne soit pas juste des vœux pieux, puis comme une épine qu'ils ont dans le pied, qu'ils ont à gérer avec un système de traduction sur Google quand c'est nécessaire. Là.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'est là l'importance d'envoyer un signal clair. Puis ça, ben, ça commence par des actions. Tant que les gens sont tannés des politiciens qui font juste envoyer des phrases creuses, puis qu'il n'y ait pas de gestes concrets. Les gens, ils veulent que les bottines suivent les babines. C'est une expression que je pense qu'on connaît tous.
Ouais.
Il est temps que ça s'applique à ce gouvernement libéral puis qu'il arrête de nous sortir toujours la même rengaine. Oui, mais les conservateurs, arrêtez, là. Stephen Harper commençait tous ses discours en français, n'importe où il était. La loi sur les langues officielles date des années 60. En réalité, elle a été écrite sur l'ère de Brian Mulroney. Il est temps qu'on pose des améliorations et que ce premier ministre s'engage là, à poser des gestes concrets. Sous le gouvernement Harper, il y a eu deux investissements historiques qui ont été faits. 2008 à 2013, 1,1 milliard pour améliorer la situation. Puis dans la feuille de route de 2013-2018, un autre 1,1 milliard qui a été mis. Même le commissaire aux langues officielles, Graham Fraser, avait dit dans son dernier rapport annuel en 2015-2016, donc tout de suite après le mandat, les 10 ans du mandat de Stephen Harper, il a confirmé que la situation s'était améliorée au cours de la dernière décennie conservatrice au sein des 33 institutions fédérales qui avaient été évaluées. Donc, nous, ce qu'on dit, ça s'est amélioré, mais il faut continuer. Il faut continuer à travailler fort, il faut continuer à pousser. Puis la dernière chose, c'est de faire ce qu'ils ont fait avec We Charity.
Déjà, si on accepte que la situation est asymétrique, elle n'est pas symétrique. Les minorités francophones et les minorités anglophones, ils n'ont pas le même genre de défi. Le français au Québec, c'est pas comme l'anglais en Ontario. Déjà, si on accepte ce principe-là, il me semble qu'on a cassé une espèce de logique trudeauiste des années 60 qui a beaucoup nuit aux Français, il me semble.
Oui. Ben c'est un pas dans la bonne direction, je dis pas le contraire, mais le problème, c'est que le passé, si on se tue au passé, c'est pas très garant de l'avenir
qui
s'en vient là.
Vous avez l'impression que ça va continuer juste d'être des belles paroles?
Ben, regardez juste dans son entrevue qu'elle a donnée, parce qu'on fait référence à l'entrevue qu'elle a donnée.
Oui, à la presse.
Sur le sujet. Ben, à la presse. Quand la question lui est posée, oui, mais la demande pour la loi 101 dans les entreprises de juridiction fédérale de François Legault,
elle vasouille.
Elle commence déjà à patiner.
Ouais.
Ben oui, mais on va travailler avec le gouvernement pour s'assurer de protéger les francophones et les anglophones en situation minoritaire. On sent la cassette dans le discours qui a été retranscrit dans le texte. Donc, si c'était clair, puis si c'était si important le français, puis en particulier dans les entreprises au Québec de juridiction fédérale, pourquoi elle n'a pas tout simplement dit, comme tous les autres partis qui se sont commis, à dire oui, on accepte ça. Il n'y a pas eu aucune ambiguïté là, par le Parti conservateur, qui est un parti national, qui transige aussi avec l'Ouest, avec les Maritimes, avec l'Ontario. Non, je pense qu'elle aurait très bien pu, c'était si important pour elle.
Avez-vous eu des échos négatifs? Parce que Alain Reyes, moi, je me souviens que en 2012, en campagne électorale, Jean Charest avait ouvert la porte à prôner l'application de la loi 101 aux entreprises et aux organismes de juridiction fédérale sur le territoire du Québec. Puis le lendemain, il avait reculé. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu vraiment un tollé là, dans la communauté anglophone de Montréal, notamment de la part d'une ancienne députée libérale, Marlène Jennings. Est-ce que vous, depuis que vous prônez ça, est-ce que vous avez eu des retours hargneux? Est-ce qu'il y a des gens dans la communauté anglophone de Montréal qui disent que le Parti conservateur a perdu la raison?
Non, pas du tout, rien du tout. Puis là, c'est mon ministère dans le cabinet fantôme que je m'occupe, puis je peux vous assurer que aucun des porte-parole de ces groupes-là nous ont appelé en catastrophe pour nous faire de la pression, pour nous dire ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'ils souhaiteraient juste qu'on ait le même discours aussi pour les communautés anglophones en situation minoritaire. Bon, ça, ils nous le traduisent, c'est leur travail de le faire, mais personne nous dit que ça n'a aucun bon sens. Puis moi, je suis fier là de voir que mon chef, bon, qui est né au Québec, mais qui a grandi en Ontario, rapidement a pris position dès sa première rencontre avec François Legault. Donc, pour moi, c'est clair que c'est une priorité de notre côté, puis qu'on va déposer un plan pour moderniser la loi sur les langues officielles si le gouvernement libéral ne s'active pas. Mais si j'écoute Mme Joly, ça devrait se faire très rapidement, là. C'est oui. Quand même 5 ans qu'ils sont là. Oui. Tous les rapports ont été faits, puis les organismes mandataires au pays qui font des recommandations qui protègent les francophones en situation minoritaire sont même sortis avant le discours du trône pour dire on veut un message clair. Et dans le discours du trône, il y avait 4-5 lignes. Puis quand on lit le discours, on a l'impression que quelqu'un a levé le flag à la dernière minute quand le texte était fini, puis il a dit oh, là, on a oublié de dire quelque chose, c'est les francophones.
Il n'a pas levé le flag, voilà. Je vous corrige, il a levé le drapeau.
Le drapeau, merci. La situation d'entrevue qui est là, c'est parfait, la correction. Il y a un drapeau rouge, puis la personne a levé un drapeau rouge, puis on a l'impression que vite, on va pitcher. Oh, excusez, il ne faut pas dire pitcher. On a inséré un paragraphe là, en français là, pour dire que le français est important, mais encore là, il n'y a aucune action, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'échéancier. Moi, je prends ça avec une petite graine de sel.
À suivre.
Bon, encore. Ouais. En passant, cette semaine, j'ai posé 2 questions à Mme Joly pour lui demander simplement les questions. J'invite les gens à les écouter. Quand va-t-elle déposer son plan pour moderniser les deux langues officielles? Et vous irez écouter ses réponses.
Ah.
Vous savez, ça fait 5 ans qu'on essaye de réparer les erreurs des conservateurs, blablabla, plein de sens à cassette.
Mais jamais d'échéancier.
Jamais d'échéancier. Puis rien qui fait en sorte qu'ils sont imputables de ce qu'ils ont fait. Donc, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une action concrète? Il n'y en a pas. La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Le rapport du commissaire aux langues officielles déposé ce matin à 10h30, Raymond Théberge, confirme que dans les 18 recommandations qu'il avait faites en 2018-2019, aucune n'a été mise en application.
En donnant une entrevue comme ça, pensez-vous qu'elle voulait occulter le rapport du commissaire aux langues officielles? Pensez-vous qu'il y avait une stratégie de communication?
Ben, je pense que ça fait partie des stratégies des libéraux de parler, d'avoir des grandes phrases creuses, d'être toujours vertueux, puis c'est eux autres qui ont toujours raison, puis si on pense pas comme eux, on est dans le champ. Puis moi, je pense que oui, elle a voulu prendre les devants parce qu'elle est tout à fait confiante. Si elle a fait ses devoirs, au minimum, si elle a fait ses devoirs de ministre, qu'aucune des 18 recommandations qui avaient été formulées dans l'ancien rapport, puis c'est elle qui est en place.
Mm-hmm.
Ça fait un an, là, fait que je disais, à un moment donné, il va falloir qu'ils soient imputables de quelque chose, ce gouvernement-là. Là. On va dire, ça fait 5 ans, là, ça fait pas 6 mois, là, on peut pas toujours mettre ça sur la peau. Je comprends, dans le premier 6 mois, c'est la faute de l'ancien gouvernement, c'est la faute de l'ancien premier ministre. Mais là, c'est plus le cas, là. Elle prend même tout le mérite du dossier des universités francophones en Ontario quand c'était le travail qui a été fait par Carolyn Maloney juste avant l'élection, là, qui a permis aux libéraux de sauver la face dans ce dossier-là.
Merci beaucoup, Alain Reyes. On doit se laisser. Je dois vous laisser aller voter en chambre parce qu'il y a des votes beaucoup aujourd'hui à la Chambre des communes.
On va voter toute la nuit, j'ai l'impression, puis pendant la journée aussi. Fait que, okay. Un gros merci, puis
merci
bonne journée à tout le monde.
Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca pour le Parti conservateur. Vous êtes à l'écoute de La Haut sur la colline.
Cube Radio.